Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Yves Alifa. Bonjour Yves Alifa.
Bonjour,
vous êtes expert en négociation. En d'autres temps, on appelle ça plus communément un ambassadeur, finalement. Ah, c'est ça, un expert en négociation, Yves Alifa.
L'ambassadeur porte des messages et l'expert en négociation analyse les situations et aide les gens, les personnes, les entreprises, les institutions qui ont des problèmes à résoudre, à éviter le recours au droit et à la force pour les aider à résoudre leurs litiges, leurs conflits par le dialogue.
Voilà, de la même manière qu'un ambassadeur, eh ben, il évite par le dialogue justement la guerre. Et vous venez de publier La négociation au quotidien, un sujet passionnant de Yves Alifa, La négociation au quotidien. C'est publié aux éditions Mardaga. Au début, quand j'ai reçu, quand on reçoit votre livre, on se dit, tiens, encore un énième livre de développement personnel. Il va nous expliquer que c'est bien gentil, il faut s'entendre, tout le monde s'aime. Mettez des cœurs sur des papiers et tout le monde sera content. Mais en fait, votre livre est bien plus complexe, spirituel, bien plus ouvert, étendu même dans la gamme de sujets qu'il couvre que tout cela. Parce que je m'aperçois que j'ai été passionné. Je m'aperçois qu'on touche au sujet lié à la, de la politique, même de l'art de la guerre, jusqu'à la drague, finalement. Tout est négociation dans la vie.
Absolument. D'ailleurs, quand on regarde la manière dont les parents négocient avec leurs enfants et leurs adolescents, on peut se poser la question de savoir comment font les politiques pour négocier avec une nation. Quand on regarde la manière dont Balzac décrivait les corrupteurs, les corrompus, les loups-cerviers, les caissiers, les cormorants, c'est ce qu'il appelait les prédateurs, les tacticiens prédateurs du 19e siècle. Aujourd'hui, on s'aperçoit que rien n'a changé. Alors effectivement, dans ce livre, j'essaye de balayer tous les espaces de la vie quotidienne, que ce soit au plan politique, au plan familial, au plan business également, à l'intérieur des entreprises et entre entreprises, qui sont les cormorants, les loups-cerviers, les tacticiens prédateurs d'aujourd'hui, et comment y faire face.
Si on quitte le domaine de l'entreprise, il y a une interrogation dans votre ouvrage, le 21e siècle sera-t-il celui de la négociation ? Eh bien, vous apportez aussi souvent des réponses et on voit qu'on s'éloigne même dans l'actualité de plus en plus de la négociation. En réalité, on est dans les anathèmes, dans la diabolisation. Je fais presque référence à travers cette question à l'actualité que vous évoquez même dans ce livre. Hein, il y a un moment sous la crise sanitaire, vous en parlez.
Tout à fait. Le 21e siècle sera-t-il le siècle de la négociation ? Après avoir été celui de la guerre, celui du droit, qui a été le XXe siècle, toute la question est aujourd'hui les décideurs de tout poil, parents, politiques, chefs d'entreprise, courent derrière le besoin de négociation. Vous prenez par exemple la négociation sociale, toutes les organisations syndicales, tous les salariés non syndiqués veulent négocier, mais on leur oppose des décisions. Alors, qui va gagner ? Qui va accepter de négocier ? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, c'est quelles sont les méthodes de négociation que les gens utilisent ? Or, il s'avère aujourd'hui que la méthode de négociation la plus utilisée est une méthode est une méthode qu'on pourrait qualifier manipulatoire, consciemment ou inconsciemment, et que face aux méthodes manipulatoires, il existe une autre manière de négocier.
Oui. J'allais presque dire avec humour, Yves, que face aux méthodes de négociation actuelles, il n'y en a pas trop. À l'Assemblée nationale, les pouvoirs sont vraiment très limités. Dans les médias, tout est monocorde. Le politique lui donne le sentiment de dire qu'il faut rester que sur une seule ligne. Et avant, on pouvait dire, si je sors de la route, allez, je vais un peu sur le trottoir, qu'est-ce qui se passe? On nous expliquait, on pouvait dialoguer. Aujourd'hui, on est dans l'anathème permanent. Ah bah c'est que tu es ceci, tu es dangereux, tu es fou, tu es d'extrême droite, ou tu es complotiste. C'est très facile, on rassemble tout à travers ces quelques mots. Donc j'ai envie de vous dire, face à cela, on revient presque au tribalisme, c'est les palettes qui brûlent dans chaque carrefour, comme l'ont fait les gilets jaunes. Ivalifa, qu'en pensez-vous ?
Absolument. Et les palettes qui brûlent à chaque carrefour, comme vous le dites si bien, c'est le résultat de la non-volonté de négociation. Il y a deux clés aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe. Il y a d'abord la première clé, c'est que la confiance a disparu. Et quand la confiance disparaît, la crédulité apparaît. Donc il s'avère qu'il est très difficile de négocier avec cette liste impressionnante dont je parle dans mon bouquin, avec des masques, le masque de l'incrédulité, le masque de l'ambition, le masque de l'indifférence, le masque de la lâcheté, etc. Et qu'il y a une deuxième clé qui permet de mieux comprendre ce qu'on peut faire, et je remonte à Tocqueville, hein, je cite pas mal de grands ancêtres, qui disaient que la République est fondée sur la discorde, elle est l'agissement pacifique de la mésentente. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que le conflit, c'est normal. Que le conflit, c'est normal et qu'il faut l'accepter. On cherche, le XXe siècle, à chercher à fuir le conflit en inventant le compromis. Or, aujourd'hui, le compromis...
Ça a donné Munich, les accords de Munich.
Exactement, voilà. Et aujourd'hui, le compromis, c'est les petits accords entre personnes qui se connaissent, c'est les misérables accords que la population ne comprend pas et qui la met en colère et qui provoque la défiance et l'absence totale de confiance et les palettes qui brûlent. Alors, cette absence de confiance vient du compromis également, mais en même temps, par quoi remplacer le compromis ? Eh bien, c'est ça que je veux dire quand je parle de 21e siècle, qui sera peut-être, et je l'espère, le siècle de la négociation, c'est l'acceptation du désaccord. Accepter d'être en désaccord, je dirais dans une famille, accepter de se fâcher au moins une fois par jour pour se réconcilier aussi une fois par jour, accepter que l'autre soit en désaccord avec moi pour construire un bon accord sur le désaccord avant d'aller travailler sur nos différences. Et si j'avais une définition de la négociation moderne, contemporaine, qui devrait y avoir aujourd'hui, c'est, je dirais, l'acceptation de la différence de l'autre avec la mise à l'écart du conflit, mais de manière tout à fait raisonnée. Autrement dit, si je termine là-dessus, c'est d'abord, mettons-nous d'abord sur le désaccord, ensuite vérifions ce qui nous rassemble, et enfin, parlons de nos différences.
C'est amusant ce que vous dites. Il faut toujours finalement, comme dans le couple, hein, en quelque sorte, un petit conflit pour bien se retrouver et que ça soit encore plus chaleureux. Voilà.
Exactement. Parler de ce qui fâche au moment
où s'engueuler de temps en temps.
Voilà, exactement. Mais parler de ce qui fâche au moment où ça fâche, un, ça fait du bien, et deux, pourquoi ça ne fâche pas ? Parce que quand on garde par-devers soi les motifs de la fâcherie, eh bien, c'est un petit peu comme une matière vivante qui fermente, qui fermente, qui fermente, qui nous empêche de réfléchir, et on se retrouve face à cette équation, je dirais, obligatoire, qui est je ne peux pas parler de ce qui m'énerve, de ce qui m'agace, parce que si j'en parle, elle va pas être contente, ou il ne va pas être content. Donc, gardons ça à l'intérieur de moi. Et au fur et à mesure, eh bien, on peut encore plus difficilement parler de ce qui fâche. Et au moment où vraiment ça devient insupportable, eh bien, ça éclate. Et c'est le conflit, c'est la guerre, c'est le divorce, c'est la paire de claques, c'est la fessée, c'est tout ce que l'on voulait éviter.
Mais parfois, il faut une mésentente, hein. Il faut mettre les choses radicalement pour bien se retrouver, je me souviens. Je vais vous raconter une anecdote. Un grand chef d'entreprise, il y a assez longtemps, voulait rentrer souvent en clash avec des interlocuteurs, qu'ils soient journalistes, concurrents, collègues, enfin peu importe. Et ça se finissait toujours très bien et s'entendait toujours très bien. Et on le voyait toujours avec des gens avec lesquels on sait qu'ils s'étaient clashés dans Paris, mais même violemment. Et il me dit, tout se finit avec un petit coulis de framboise. C'est-à-dire, coulis de framboise, c'est quand vous êtes dans un bon resto gastronomique, c'est le dessert, vous avez bien déjeuné, il est déjà 3h de l'après-midi, et il reste encore le dernier petit gâteau, et le maître d'hôtel vient vous faire couler le petit coulis de framboise. Ça veut dire, il me disait, ça c'est le coulis de framboise, ça veut dire que tout va bien alors qu'on s'est clashé avant. Et quand ce chef d'entreprise, dans les médias, on parlait de lui, il était en clash avec d'autres, je lui disais en plaisantant, ça va finir avec un coulis de framboise. Et 3 mois après, ça finissait avec le coulis de framboise et ça se passait très bien.
C'est une très jolie métaphore, une très jolie anecdote. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le coulis de framboise ne peut intervenir que si jamais on a quelque chose à partager. On a un intérêt commun. Je voudrais vous raconter une anecdote non pas comparable, mais un peu plus dramatique, si j'en ai le temps, que je cite dans mon livre. Un écrivain voyageur décédé aujourd'hui d'origine suisse, Nicolas Bouvier, qui a écrit un livre fantastique qui s'appelait « L'usage du monde », raconte, alors qu'il voyageait dans le Kurdistan iranien, rencontrer un village triste, mais dans lequel, je dirais, les tribus présentes, les clans, les familles s'étaient réconciliés. Qu'est-ce qui s'était passé? À l'origine, il y avait un problème entre deux familles concurrentes sur des terres, sur quelle terre on allait faire pâturer nos troupeaux. Et finalement, ils n'étaient pas arrivés à se mettre d'accord. Et un beau jour, ils rentrent dans une même pièce. Ils étaient 75, femmes, enfants, adultes, et pour essayer de résoudre le problème. À un moment donné, les deux chefs de clan se disent « on n'y arrive pas ». Ils font sortir tous les enfants de moins de 15 ans et toutes les femmes, et ne reste que la trentaine d'adultes. Et là, chacun, on éteint la lumière, chacun sort son couteau, on s'étripe, et il ne reste plus que 12 personnes vivantes à la fin. Là, les familles se réunissent en disant « qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de morts, qu'on ne peut plus, on n'a plus assez de monde pour travailler au village. Et donc, les gens se rassemblent et se disent « comment on va faire maintenant pour ne plus jamais en arriver là ?» Alors, la technique de négociation que je prône dans le livre, et on revient à ce qu'on disait, mon cher Yannick, c'est qu'aujourd'hui, il faut d'abord parler de ce qui fâche, avant de négocier. Pourquoi ? Parce que parler de ce qui fâche, c'est aussi montrer à l'autre les conséquences négatives de ce qui se passerait si jamais on ne se mettait pas d'accord. Écoute, mon cher ami chef d'entreprise, aujourd'hui, nous sommes fâchés. Hein ? Moi, j'adore le coulis de framboise, toi, tu adores le coulis de framboise. Essayons de faire en sorte que nous ayons envie tous les deux, à l'issue de cette négociation, de partager ce coulis.
Ah, j'aime beaucoup votre anecdote hein. Sur les chaises musicales. Dommage qu'il faille en arriver là hein, et de s'étriper à coups de couteau pour comprendre qu'on a quelque chose à partager ensemble.
Voilà. On frôle d'ailleurs aujourd'hui hein, entre les Américains et, la Russie sur le problème ukrainien. On a frôlé avec le Brexit aussi des catastrophes. Mais c'est les techniques qui sont utilisées. Si on joue à se faire peur, hein, pour essayer de bien montrer à l'autre que tout ce qu'on court comme risque. Et enfin, on se met autour d'une table. Heureusement, pour l'instant.
Ah justement, alors c'est génial, parce que j'allais vous en parler, parce que vous prenez cette anecdote, et dans le livre, il y a toutes les situations, vous expliquez comment réagir, comment analyser quelqu'un qui va venir, qui va vous dire « toi, tu vas voir, tu as intérêt à faire ça », la menace, la coercition. Et en réalité, on s'aperçoit que celui qui menace le plus, c'est celui qui a le moins de moyens derrière. C'est-à-dire, il y a de la tchatch, comme on dit, il y a de la parole, mais ça se concrétise pas. Bon, c'est votre histoire sur... les bras de fer face à Poutine, hein, qui me font penser à ça, parce qu'on ne va pas envoyer quelques soldats en Roumanie pour dire « on va casser Poutine ». Le gars, il a autre chose à... Mais dans la vie, dans le monde de l'entreprise, vous citez l'art de la guerre aussi, ce sont souvent ceux qui parlent le plus fort, qui crient le plus fort, qui menacent le plus et qui sont les moins gentils, finalement, qui n'ont pas grand-chose. Il faut se méfier du calme.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ici, moi j'entends souvent dans les séminaires que j'anime, puisque j'anime des séminaires de formation à la négociation, que ce que les gens craignent le plus, ce sont par exemple les acheteurs de la grande distribution, quand ils menacent. Et moi je leur réponds, n'ayez pas peur. Quand quelqu'un vous accueille, vous invite dans son bureau pour vous menacer, c'est qu'il a besoin de vous. Ayez plutôt peur de celui qui est gentil et qui termine une petite négociation échouée en vous disant « Écoutez, je vais réfléchir, c'est très intéressant ce que vous me dites. » Il vous raccompagne tranquillement jusqu'à votre voiture au parking. Il vous serre la main, il vous demande des nouvelles de vos vacances, de votre famille. Et puis, vous faites 35-40 kilomètres et vous apprenez que vous avez été déréférencé. La gentillesse, la douceur dans des négociations difficiles cache souvent des gens qui ont les moyens de faire pression. Mais quand on est face à quelqu'un qui vous menace, eh bien, il y a des moyens. D'abord, il faut savoir que celui qui vous menace, c'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'impuissance, c'est donc quelqu'un qui a des difficultés. C'est comme quelqu'un qui ment. Un menteur en négociation, c'est quelqu'un qui protège quelque chose. Un agressif, c'est quelqu'un qui a peur de quelque chose, qui a peur de ne pas pouvoir aboutir à un résultat. Donc, c'est pour ça que il faut d'abord analyser le modèle du négociateur prédateur, le modèle du négociateur imbécile, le modèle du négociateur agressif. Ce modèle, c'est un petit peu toujours le même. Il exagère la première prise de position. Il vous met en compétition. Il comprime le temps disponible. Il ment sur son mandat. Il dilue le temps. Ou bien, il joue l'ignorance, la colère. Il vous enferme dans des préalables. Il vous coince dans un ultimatum. Il vous piège dans une fausse rupture. Il vous pose un feu roulant de questions. Eh bien, si vous savez que tous les négociateurs prédateurs dont je parle fonctionnent comme ça, eh bien, vous ne pouvez plus avoir peur puisque c'est un modèle identifié. Et face à ça, vous allez pouvoir le gérer en l'accompagnant.
Vous savez, quand j'ai lu votre livre, d'abord, ça m'a fait rire quand vous parlez, par exemple, vous avez pris l'exemple de la grande distribution, vous apprenez trois quarts d'heure de 40 kilomètres que ça y est, vous êtes déférencé, et puis vous racontez aussi cette anecdote, hein. Le gars va vous regarder avec un grand sourire, il va vous dire oui, il n'y a pas de problème sur les volumes d'achat, il ne va pas discuter votre prix d'achat, vous allez être super content quand vous êtes face au gars dans son bureau, mais après il va vous faire signer toutes les demandes exceptionnelles sur les remises, les rabais, les ristournes, voilà, avec les conditions de paiement. Hein,
Exactement. Exactement. Là, il y a effectivement, je dirais, une multitude de techniques, de tactiques qu'on peut qualifier de déloyales, de prédateurs. Je préfère des tactiques prédatrices. Mais comme on les connaît, le business model pour les gérer, il est assez simple. Un, les identifier. Deux, les nommer. Et trois, les recadrer. Monsieur, vous êtes en train de me mettre un préalable. C'est bien ça que vous faites. Comment voulez-vous que je puisse vous donner ce que vous voulez si vous me traitez comme ça? Soyons raisonnables, dites-moi franchement ce que vous voulez, peut-être que je pourrais vous le donner. Aujourd'hui, il faut retrouver en négociation face aux tactiques prédatrices, face aux négociateurs classiques, il faut retrouver une certaine authenticité. Rétablir la confiance, c'est dire à l'autre ce qui ne vous plaît pas. Et ce qui ne vous plaît pas, c'est souvent la manière dont on vous traite. Et là, revenir à des zones interpersonnelles, je dirais plus simples, permet de séparer le problème à résoudre du problème humain. Il n'y a jamais de problème humain. Il n'y a que des problèmes techniques à résoudre.
Quelle est l'importance du décalage ou non culturel ou civilisationnel? Est-ce que votre livre pourrait être traduit en anglais et être valable de la même façon, ou traduit en chinois, par exemple, et être valable de la même façon, où nos différences culturelles font que ce qui est bon dans une civilisation n'est pas bon dans l'autre? Un jour, j'étais dans un avion et à côté de moi, en venant d'un voyage en reportage à l'international, une personne qui semblait être un haut gradé dans la diplomatie israélienne, voilà, du pays, ou dans l'armée. Et il me disait, comme on prenait notre café dans l'avion, on discutait, il me dit « Ah, moi j'ai un problème », il me dit. Moi, quand Les Arabes, je les connais par cœur. C'est-à-dire, quand l'Arabe va rentrer dans la pièce, je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'il va me répondre, je sais comment il va se comporter et je sais où je peux l'emmener. Je les connais par cœur. Les Africains, c'est la même chose. Les Occidentaux, c'est la même chose. Les Anglo-Saxons, c'est la même chose. Je les connais par cœur. Je sais exactement comment on fait, ce qu'il faut dire. Il n'y a que les Chinois. Et le gars était comme un petit enfant. Il me dit, il n'y a que les Chinois, je ne les comprends pas. Je ne sais pas. Il me faut un sourire. Je ne sais pas si c'est où il veut m'emmener. Il me dit, je n'ai pas le code. Je n'ai pas le mode d'emploi. Vous voyez, cette anecdote m'avait fait beaucoup rire.
Oui,
voilà.
Oui, tout à fait.
Mais est-ce qu'il y a un mode d'emploi aussi des relations dans la négociation?
Absolument. Et là, je dirais, c'est une question qu'on pose souvent sur la négociation interculturelle. D'abord, la négociation interculturelle, on parle souvent d'une nation à l'autre. Comment négocier avec un Chinois, comment négocier avec un Bantou, comment négocier avec un Américain. Mais on pourrait aussi se poser la question dans une entreprise, comment négocier avec un ingénieur si je suis financier, comment négocier avec un commerçant, un commercial, si je suis ingénieur, hein, c'est des problèmes interculturels aussi. Et comment négocier avec un vieux de plus de 60 ans si j'ai 20 ans et inversement. Donc tous ces problèmes-là ont une clé, une solution. Gérer la négociation interculturelle, c'est parler de sa propre culture pour que l'autre vous parle de la sienne. Je vais vous citer une petite anecdote qui m'est arrivée personnellement il y a pas mal d'années. Ma femme était chef d'entreprise et elle vendait au Japon. Nous arrivons au Japon. L'enjeu, c'est le référencement de ses produits dans plusieurs corners de plusieurs grands magasins japonais. Nous sommes invités à déjeuner avec les futurs clients de mon épouse. Et naturellement, nous sommes assis par terre avec des mets apparemment délicieux mais qu'on ne connaît pas. Et j'ai lu dans les bons manuels de comment négocier avec des Japonais qu'il ne faut jamais que les Japonais ne parlent jamais de prix, de business à table. Bon, ça ne se fait pas. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce jour-là, les Japonais, dès qu'ils commencent à voir la sauce goûter sur ma cravate, commencent brutalement à dire « et pour les prix, ça ne le fera pas ». Alors naturellement, mal assis, un peu déstabilisé, la négociation s'est mal déroulée. Échec. Quelques mois plus tard, après avoir réfléchi à la manière dont ça s'était passé, voilà comment ça s'est résolu. Monsieur et Madame Alifa, accepteriez-vous de venir déjeuner avec nous dans une auberge traditionnelle japonaise? C'est un moment de détente pour vous faire connaître notre culture gastronomique. Ce sera, monsieur, avec plaisir que j'accepterai d'honorer votre invitation, mais une fois que la négociation sera terminée. Parce que vous comprenez, nous sommes Français. Nous aimons être détendus à table, et si jamais on devait parler business à table, eh bien, on serait très mal à l'aise. Vous comprenez? Être assis sur des tatamis, ne pas pouvoir goûter votre haute gastronomie, nous serions mal à l'aise de parler chiffres. Sourire en face. Vous voulez donc déjeuner à table, assis sur une chaise, avec un beefsteak frites. Et pourquoi pas, et tout le monde a éclaté de rire. Autrement dit, ma clé, la technique, c'est je parle de ma culture pour que l'autre me parle de la sienne, et on essaye de se mettre d'accord sur des modus vivendi. Attention au biais cognitif. Hein, votre général qui connaissait bien les différentes cultures avait un problème. C'est-à-dire une faiblesse d'écoute individuelle, parce que dans chaque négociation, il y a une situation particulière qu'on n'a pas vécue. Juste pour être très court, on dit souvent que les négociateurs de moins de 30 ans sont mauvais, et on a raison de le dire, parce qu'ils ont peur de la relation humaine, ils ont une rigidité par rapport à ça, et que les négociateurs de plus de 50 ans sont aussi mauvais. Pourquoi? Parce que ils ont tout vécu. La trop grande expérience en négociation crée des modèles comportementaux qu'on reproduit, alors qu'on doit s'adapter à chaque situation à chaque fois. pas si je suis clair sur le sujet.
Alors Yves Alifa, il y a un point très important dans votre livre qui s'appelle « La négociation au quotidien », sans doute le sous-titre du livre, « L'art des victoires sans vaincus ». Ça, c'est très très important, c'est même essentiel. Je vais vous mimer deux catégories de personnes qui rentrent après une négociation, deux chefs d'entreprise qui vont voir son conseil d'administration. Le gars dit « c'est génial ». On les a eus, on les a pliés, on les a mis KO, on a tout, le gars il s'en relèvera pas, voilà. Ce qu'il oublie, ce malheureux chef d'entreprise qui a crié victoire trop vite, c'est que l'autre est peut-être KO, mais il va chercher à rebondir et le gars va se réveiller, son adversaire va se réveiller tous les matins qu'il sera sur terre pour se dire comment je vais me venger en quelque sorte de cette humiliation. Deuxième cas de figure, le chef d'entreprise qui revient à son conseil d'administration qui dit « Bon, on aurait pu aller très loin, mais finalement j'ai cédé là-dessus et là-dessus, ça va nous coûter un peu. Mais c'est bon, il était quand même content, il n'a pas perdu sa boîte, il n'a pas perdu tel marché. Nous, on a quand même regagné tel marché et on n'a pas reperdu là où il nous attaquait, il ne nous attaquera plus. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas vraiment gagné, mais c'est très bien, voilà. Mais le... celui qui a été en face, qui a peut-être aussi perdu un peu, ne va pas se réveiller chaque matin en pensant à l'autre.
Alors, effectivement, là, on touche au cœur de la méthode de négociation. Il y a ce qu'on appelle des méthodes distributives, hein, c'est-à-dire des méthodes qui font qu'on est là pour prendre la plus grosse part du gâteau. Il y a un gâteau au milieu. Moi, j'ai intérêt à prendre la plus grosse part du gâteau. Dans la méthode que je prône, qu'on appelle une méthode intégrative, c'est de se dire que finalement, je vais me retrouver avec mon interlocuteur, mes interlocuteurs, et il y a un gâteau sur la table, on va essayer de le faire grossir ensemble. Donc, il s'agit pas de gagner contre l'autre, mais il s'agit de gagner pour moi, sans faire perdre l'autre.
Et si le gâteau ne peut pas grossir, on laisse pas les miettes aux autres. C'est ça, voilà. On leur laisse une petite part, c'est ça.
Alors, on laisse à l'autre la part dont il a besoin. L'art de la négociation pour ne pas faire de vaincu, c'est de se dire en préparation, qu'est-ce que je vais pouvoir donner à l'autre qui lui rapporte beaucoup et qui ne me coûte rien, pour que l'autre puisse me donner ce qui ne lui coûte rien et qui me rapporte beaucoup. Et c'est souvent, on cite souvent la métaphore de l'orange, hein, que Kofi Annan avait, en tant qu'ancien secrétaire général de l'ONU, avait popularisé, hein, que beaucoup de gens connaissent. Deux enfants sont autour d'une orange et sont en train de se battre. Et le père leur dit, mais les enfants, c'est ridicule, vous êtes en train de vous battre autour d'une orange puisque vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, c'est moi qui vais la bouffer. Deuxième technique. Plus sophistiqué, plus civilisé. Les enfants, vous voyez pas que cette orange est pourrie et le père met l'orange à la poubelle. Alors ça pourrait marcher, sauf si l'un des enfants va vérifier qu'elle est complètement saine et donc la crédibilité du père sera définitivement mise en cause. Et il y a une troisième méthode très courante, c'est celle dont je parle du XXe siècle, c'est les enfants, ne vous fâchez pas, vous êtes deux, il y a une orange, coupez-la en deux. Et Kofi Annan disait, c'est pauvre et misérable d'en arriver là. Tout le monde a oublié la question centrale, c'est d'abord de demander à chacun pourquoi il veut l'orange. Et très probablement qu'un gamin va dire, et moi j'ai faim, et que l'autre va dire, moi je veux confectionner un gâteau à l'orange. Et donc que le problème est résolu de la manière suivante, toi tu veux la pulpe, et toi tu veux le zeste. Vous n'avez pas les mêmes intérêts. Donc très souvent, on peut faire grossir le gâteau parce que les raisons pour lesquelles nous négocions ne sont pas les mêmes. Mais on n'en parle pas. Alors parce que ça se fait pas. Et je voudrais juste vous dire quelque chose par rapport à la négociation interculturelle. Très souvent, quand je m'adresse à des négociateurs de plus de 50 ans qui croient avoir tout vécu, tout vu, et que je leur dis, mais pourquoi vous ne dites pas à votre interlocuteur comment vous fonctionnez, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît? Et voici la réponse que j'ai, c'est « Ah bon, on a le droit de le dire ?» Eh bien oui, on a le droit d'être authentique, on a le droit d'être vrai. La négociation, c'est pas toujours jouer un rôle. Il faut jouer un rôle, c'est sûr, à certains moments donnés, mais il y a des moments où il faut être soi-même.
Oui, les plus grands négociateurs étaient eux-mêmes, ne jouaient pas forcément de rôle, Et certains ont obtenu des résultats fantastiques en étant sincères. Voilà, tout simplement.
Exactement, exactement. Vous avez
c'est
des négociateurs. Oui, voilà, excusez-moi.
Non, je ne voulais pas vous interrompre.
Non, je dis, il y a des négociateurs célèbres actuels qui sont excellents. Hein. Vous prenez un ancien secrétaire d'État américain dont j'ai perdu le nom et Sergueï Lavrov, l'incontournable
chef de la diplomatie russe.
Voilà, c'est ça. Ils sont en désaccord sur beaucoup de choses, mais ils ont établi une relation interpersonnelle tellement forte qu'ils sont capables de conserver une confiance mutuelle et parler de ce qui les sépare pour mieux aller vers ce qui les rassemble.
On a abordé beaucoup, beaucoup de sujets, mais pas tous ceux qui sont dans votre livre. Je retiens aussi sur les comportements. Finalement, c'est la conclusion que j'aimerais apporter. Il y a un message presque biblique de bon sens. Non, mais c'est vrai. Faut toujours, en fait, on a toujours tendance à se ruer vers le beau, le séducteur, le gars rassurant, le physique rassurant. Alors que le physique peut, voilà, le gars qui est un peu colérique, qui va gueuler un peu, rentrer dans mon bureau, le bureau est pas très bon, on dit on va se faire avoir. Alors que si ça se trouve, c'est là où le gars sera le plus sympa et cédera tout. C'est-à-dire que le diable s'habille en Prada. C'est pour reprendre ce titre de film.
Comme c'est beau.
D'accord,
oui,
non, c'est...
absolument. Il y a, si vous voulez, on a trois, vous parlez de comportement. Effectivement, c'est le fil conducteur un petit peu de ce livre. C'est qu'il y a trois comportements généraux que nous avons tous, y compris moi, dans certaines situations. C'est riposter, hein, à l'autre extrémité, céder. Et puis, quand on en a marre, quand on n'en peut plus, rompre. Eh bien, ni riposter, ni céder, ni rompre ne sont des bons comportements efficaces. Alors, on le remplace par quoi ? Par un quatrième comportement qui est beaucoup plus difficile à acquérir à cause des réflexes culturels qu'on se trimballe, c'est accompagner. Accompagner l'autre vers ce qu'il souhaite. Bonjour patron, je voudrais 15% d'augmentation de salaire. Je ne vais pas répondre à cette revendication, je vais accompagner sa colère et sa revendication pour l'aider à préparer sa négociation. C'est-à-dire que le gars qui vient me voir en tant que patron et qui me demande 15% d'augmentation de salaire, je ne vais pas lui répondre ni oui ni non, je vais essayer de comprendre comment il en est arrivé là. J'imagine, mon cher Yannick, que si aujourd'hui tu me demandes une augmentation de salaire, c'est qu'il y a quelque chose qui a déclenché cela. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Donc, autrement dit, on pose très rarement la question pourquoi.
Sauf si le gars, lui, le patron, lui répond « C'est bien gentil, mais moi, je pensais justement à autre chose. Donne-moi une bonne raison pour que je continue de te garder au sein de l'entreprise.
Ah, »
Ça casse tout.
C'est
déjà arrivé.
Alors, effectivement, ça peut être le bon moment. Écoute, Yves, hein, tu me demandes une augmentation de salaire. Juste tombe pile au moment où je me posais la question de ta pérennité dans l'entreprise. Mais je rajouterais, en négociateur soucieux du temps long, hein, c'est que, et de la bonne, des bonnes pratiques humaines, de la relation humaine, maintenant, donc, à l'issue de cet entretien, tu ne feras plus partie de l'entreprise, mais j'aimerais t'accompagner pour savoir comment tu vas rebondir une fois que tu auras quitté l'entreprise. Voilà. Je ne vais pas, moins j'ai à donner en négociation, plus la négociation doit durer. Je terminerai presque sur ce paradoxe. Quand on n'a rien à donner à l'autre, on doit toujours donner du temps. Et effectivement, la négociation est consommateur de temps, mais d'un temps qu'on espère riche et fructueux.
Merci Yves Alifa de nous avoir parlé de votre nouveau livre. Vous êtes expert en négociation, sujet passionnant, la négociation au quotidien, l'art des victoires sans vaincu aux éditions Mardaga. J'espère que tout le monde va bien comprendre que tous ces préceptes du livre ne sont pas forcément appliqués dans sa vie personnelle amoureuse, parce que là, ça fait des dégâts, parce que j'en ai aussi, il y en a aussi qui s'amusent, hein, ils vont décortiquer tous vos chapitres pour acheter un concurrent, vous lui dites pas que vous êtes d'abord intéressé, vous le laissez languir un peu, comme si vous pouvez vous passer de lui alors qu'il a besoin de vous, et il y en a qui vous appliquent ça dans leur vie quotidienne, hein. Hein, c'est vrai.
Hein, c'est vrai, vous c'est vrai. Citez, a... c'est... Voilà, exactement.
Mais vous le citez même dans le livre, hein, voilà. Et l'amour, c'est pas ça, quand même. Les relations humaines, j'espère. Yves Alifa.
Voilà.
Voilà. Merci. La négociation. Merci. Au quotidien aux éditions Mardaga.